Terre à Terre, le magazine de l'environnement. On parle ce matin de Constellations, un livre sorti il y a déjà quelques mois, mais qui devrait durer quelques années. Entre le moment où nous aurions pu ou dû nous rencontrer et celui où cette rencontre a effectivement lieu, il s'est passé énormément de choses et entre autres des événements qui ont fait sortir de l'ombre ceux qu'on appelle les zadistes. Et tout à coup, on a vu apparaître des myriades d'articles, de portraits, d'interrogations, de questionnements sur qui sont ces jeunes. Alors on les appelle les zadistes. Moi, je vous propose qu'on ne vous appelle pas des zadistes aujourd'hui, même si, de fait, vous avez tous, à un moment ou à un autre, fait un tour dans ces zones à défendre qui fleurissent sur tout le territoire. Mais il se trouve que, je trouve presque dommage que la presse se soit posée tant de questions, parce que ces questions, enfin, ou vos questions, vous vous les étiez déjà posées, et vous les aviez rassemblées dans un livre assez considérable. Il s'appelle Constellations, il fait plus de 700 pages, ça peut faire très peur. Et en fait, c'est un recueil de témoignages, un récit de vos trajectoires. D'ailleurs, le sous-titre, c'est « Trajectoire révolutionnaire du jeune 21e siècle ». Donc, vous n'êtes pas des zadistes, vous faites partie d'un collectif, le collectif Mauvaise Troupe. Aujourd'hui, vous êtes trois, vous avez été plus nombreux à co-rédiger ce livre qui a été publié par les éditions de l'Éclat. Et ce que j'aimerais, en fait, c'est qu'on parte de vos questionnements, de vos interrogations, parce que de fait, elles me paraissent plus riches, peut-être plus intéressantes, et elles permettent d'explorer davantage de pistes que simplement la piste de cette confrontation qui monte et qui est montée en épingle si facilement. Donc, Armel Bizot, Arnaud Feuillu, Pablo Régin, peut-être quand même commencer en quelques mots par vos trajectoires personnelles sans... C'est évidemment pas un interrogatoire, mais simplement pour qu'on sache un peu qui vous êtes. Arnaud Feuillu, vous commencez ?
Très bien. Bah moi, si j'avais à me présenter à travers le livre, parce que finalement, le livre, c'est un peu de nous pris dans un ensemble d'histoires collectives sur ces 10-15 dernières années. En fait, je pourrais parler d'un parc occupé où on vivait dans des cabanes dans les arbres en 2004 à Grenoble pour empêcher la construction d'un stade de foot. Je pourrais parler d'un lieu squatté dans une friche industrielle, d'un espace autogéré qui existe depuis 17 ans et puis d'une vie qui s'entremêle avec un bocage qui essaye de rester libre à l'autre bout de la France. Je pourrais parler encore de ma rencontre là où j'habite dans l'Est avec des centaines de migrants africains qui déboulent dans ma ville qui est plutôt blanche et bourgeoise comme ça, un peu des bouleversements politiques, culturels que ça implique cette rencontre-là. Je pourrais aussi parler de réseaux qui ont essayé de se former au cours de ces 15 dernières années pour essayer de donner de la consistance à des mouvements pour que des expériences éparpillées entre des lieux collectifs, des moments de lutte contre les OGM, les caméras de vidéosurveillance, des contre-sommets, tout ça, ça essaye de s'entremêler, de trouver un sens et un mouvement commun. Voilà, c'est peut-être quelques mots sur moi, mon parcours, mon rapport aussi à ce qu'on a raconté dans ce livre.
Déjà beaucoup de choses. Pablo Régin ?
Alors, pour pratiquer un peu le même exercice, de partir un peu ce qu'on a cherché à faire passer de nos vies dans ce livre, Constellation, moi j'évoquerais une sorte de bouleversement de vie au moment du mouvement contre la première embauche en 2006, où on s'est retrouvé des millions dans la rue, à occuper des facultés, aussi dans la rue et se retrouver confronté à la police, à rencontrer des tonnes de gens avec qui on partageait le même sentiment que on avait envie de vivre autre chose que la suite des études et puis le travail et puis la vie de famille, etc. Et donc voilà, ça c'était un des moments assez forts de ma trajectoire politique. Je pourrais évoquer d'autres points, des moments mémorables de fêtes dans la rue, l'écriture de journaux qu'on diffusait nous-mêmes, voilà, ce genre de choses.
Armel Bizot ?
Je vais continuer sur la lignée de mes camarades.
parmi les parcours, mon parcours, ma trajectoire politique, il y a eu la tentative d'ouverture d'un centre social autogéré et les limites auxquelles on s'est retrouvé confronté face à toute l'envie politique très forte et surtout pas du tout modeste et
ambitieuse.
Des difficultés très, voilà, c'est ça, merci, très ambitieuse et du coup ben voilà, essayer d'être ouvert sur un quartier qui en fait arrivait pas du tout à l'aide parce que c'était un quartier bourgeois. Bon voilà, ce genre de tentative qui est retracée dans le livre avec ses limites et en même temps c'est des moments très forts. Un mouvement d'occupation de fac, ça a été aussi une bifurcation très importante et tenter des choses politiquement. Suite à ça, comment l'envie de aussi s'organiser, par exemple, pour arriver à faire à manger collectivement, s'organiser en cantine collective pour faire à manger pour des personnes en lutte sur des moments où on était très nombreux et d'autres moments où on l'était moins.
J'aime bien ce premier fouillis que vous avez posé sur la table. Je trouve qu'il vous ressemble bien. Et dedans, on y pioche pêle-mêle du politique, de la fête, des rencontres, du hasard, de la lutte, de la recherche, des tentatives, des désirs. Est-ce que, tout de même, au départ, les uns et les autres, vous vous inscriviez dans une histoire ou une tradition politique, ou bien est-ce que vous avez le sentiment, au contraire, d'avoir démarré de rien, de vous-même, donc pas de rien?
Alors, je pense qu'en général, c'est assez difficile de faire des généralités là-dessus, parce que vraiment, il y a une diversité de parcours dans les gens avec qui, par exemple, je peux vivre aujourd'hui, qui est, de ce point de vue-là, en tout cas, assez marquante. Moi, en ce qui me concerne, j'étais effectivement... je me suis un peu retrouvé là-dedans aussi par intérêt pour l'histoire, pour ce qu'avait été le mouvement ouvrier, l'histoire des révolutions depuis la Révolution française. J'ai une politisation, si on veut dire, qui est assez liée à cette recherche-là de, historique, quoi. Et pour d'autres, ce ne sera pas du tout le cas, mais du coup, oui, moi, en ce qui me concerne, je sens un héritage avec les mouvements de lutte, je l'ai dit, mouvements ouvriers, avec les mouvements des années 60-70, qui sont partis sur tout un tas d'autres champs de lutte que celle du travail, donc féministe, écolo, etc., anticolonial aussi.
Mais vous parlez d'une recherche et pas d'une inscription, c'est-à-dire vous n'apparteniez pas à un mouvement politique, Pablo Régin?
Non, c'est. Enfin, dans mon parcours, j'ai fait partie d'organisations politiques, syndicales, mais assez vite, en fait, ça m'est apparu que c'était pas vraiment dans ce cadre-là que j'avais envie de m'organiser. Puis il se trouve qu'il y avait tout un tas de gens avec qui faire des choses en dehors de ce genre d'organisation un peu formelle, et que ça me convenait mieux, quoi.
Arnaud Feuillu?
Ouais, si j'avais à parler de s'inscrire dans un mouvement, dans des pratiques politiques, je pense par exemple dans les années 90, au moment où moi j'ai commencé à me préoccuper de vivre de manière politique, et dans ma ville on organisait des concerts punk par exemple et on se sentait héritier finalement d'un mouvement des années 80-90 qui avait porté une manière de penser la culture en dehors du monde commercial, des grosses multinationales, de comment des gens se retrouvaient à faire de la musique en allant occuper des vieilles usines, en produisant leurs disques, leurs albums eux-mêmes, en faisant de la distribution non-profit, du do-it-yourself. Et puis ça, c'était des manières de se retrouver aussi avec des gens dans des fêtes, autour de tenir des permanences pour distribuer des petites cassettes ou des fanzines photocopiées. Et c'était des manières politiques parce que ce que ça permettait, c'était effectivement pas forcément la politique prise au sens des grandes manifs, des grands renversements et mouvements sociaux, mais dans un truc très quotidien qui s'inscrivait aussi dans créer une communauté de lutte, une culture commune, des moments de fête, de repas ensemble, de faire des bouffes végétariennes, etc. Et puis c'est un moment aussi où, à la fin des années 90, il y a eu un ressurgissement de la possibilité de se heurter de manière assez frontale comme ça à l'ordre libéral, à l'ordre économique. C'est ce qu'on a appelé le mouvement des contre-sommets, qui est un peu fondateur. Enfin, il y a trois parties dans le bouquin qui sont plus chronologiques que les autres, qui sont moins thématisées. Et la première partie, la trajectoire 1, finalement, son moment fondateur, c'est le mouvement anti-mondialisation. Un moment où on arrive à recristalliser, à pointer du doigt que les politiques économiques, elles ne nous sont pas juste infligées comme un rouleau compresseur, mais qu'il y a des moments où des gens se réunissent, prennent des décisions. On arrive à pointer du doigt des institutions économiques comme l'OMC, le Fonds monétaire international. Et on se dit, il y a quelque chose qui se joue là et il faut aller les empêcher, il faut aller s'y heurter, il faut aller matérialiser le pouvoir là où il est. Et c'est un moment, effectivement, où il y a un essor des grands rassemblements, des rencontres possibles, où se croisent des gens qui luttent aux quatre coins de la planète, finalement, où tout d'un coup, on se sent lié entre ce qui se passe en Europe avec Reclaim the Streets en Angleterre, qui organise des grandes fêtes de rue et qui va bloquer des centres boursiers. Ben, nous, au même moment, à Dijon, à notre mesure, on se retrouve à s'enchaîner autour de banques la même journée pour empêcher que les gens entrent dedans. Et puis, on sait que de l'autre côté du monde, il y a des paysans indiens qui brûlent des champs OGM, paysans indiens qu'on accueille quelques mois plus tard parce qu'ils viennent par centaines dans des bus, puis on se retrouve à bloquer le centre de Rhône-Poulenc avec eux ou à participer à la destruction de laboratoires OGM de l'INRA et à pointer finalement comment la recherche d'État, elle est aussi impliquée, imbriquée dans cette logique libérale. Et c'est un moment d'effervescence où se créent effectivement de nouveaux réseaux politiques et où on se rencontre pas seulement dans ces moments de grandes manifestations, de contre-sommet, mais on se rend compte que derrière ces moments un peu spectaculaires, un peu fous, où on se heurte à la police, eh ben, y a aussi des gens qui pratiquement s'organisent pour vivre ensemble dans une autre logique que la logique libérale et gestionnaire, c'est-à-dire des gens qui sont dans des squats en ville, des gens qui essayent de cultiver autrement, etc. Et puis on se dit, il faut que ce mouvement politique-là, il continue à se construire en dehors de ces grands moments spectaculaires qui s'inscrivent dans le quotidien, dans des luttes qui durent, et on commence à organiser, à structurer des réseaux de ce type-là. Et je pense qu'aussi à l'époque, il y avait toute une réflexion quand même sur le fait que nous, on débarque, on essaye de se dire « Ah, mais la logique capitaliste, on peut s'y confronter. » Et on sait qu'il y a des gens, 30 ans en arrière, qui l'ont fait de manière très forte. Mon camarade évoquait les mouvements révolutionnaires des années 70 et que pourtant, quelque part, ils se sont échoués. Ils ont arrêté, qu'il y a un tas de gens même qui ont retourné leur veste, qui sont passés complètement à autre chose. Des fois, ces gens-là, c'est tout simplement nos parents, en fait, quelque part. Et on se dit, comment on va trouver des formes d'engagement qui connaissent potentiellement pas ce reflux-là, qui soit des engagements pour la vie. Et ça demande une certaine consistance qui se pense au-delà d'un squat qui va durer 6 mois et se faire expulser. Et puis ce sera une page, un tournant de rébellion dans la vie après lequel il y aura un retour à la normale. Mais c'est penser très fortement comment nous, notre génération, on essaierait de s'organiser en conséquence pour qu'il n'y ait pas de retour à la normale.
Alors ça, on va y revenir évidemment à Arnaud Feuillu. Mais j'aimerais peut-être qu'on s'arrête sur un point qui m'intrigue. Le fait que vous avez décrit des engagements politiques extrêmement divers. Or, c'est peut-être ça qui est le plus difficile à comprendre, c'est comment arriver à faire coexister des aspirations ou des cultures politiques extrêmement différentes, alors qu'on sait que la politique a été très structurée de manière extrêmement rigide dans les dernières décennies. Armelle Bizot ?
En posant la question, j'ai l'impression que vous donnez aussi la réponse, dans le sens où j'ai l'impression que peut-être que ce qui nous relie, en tout cas pour un certain nombre, c'est le refus de, pas par principe, mais de ces vieilles organisations politiques ou de ces vieilles manières de s'organiser. Après, j'ai l'impression que mon camarade à ma gauche ne serait pas d'accord, mais en tout cas, moi, quand je réfléchissais à le commencement de mon engagement politique, je revois aussi les manifs à très nombreux anti-Le Pen. Et je repense à des milliers de jeunes dans la rue. Et j'ai l'impression que ce qui les reliait, c'était plutôt quelque chose qui prenait ce monde par la négative, quoi. Qui venait dire on ne veut pas de Le Pen. Enfin, j'ai l'impression du racisme, etc. Mais plus que faire partie de tel ou tel parti politique, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il représente plus grand espoir de changement, quoi.
Pablo Réjean ?
Oui, pour compléter sur qu'est-ce qui nous permet de relier ces expériences diverses et qui peuvent effectivement un peu partir dans tous les sens, c'était un peu l'hypothèse qu'on faisait en réalisant ce livre, c'est que on avait traversé des pans d'histoire qui effectivement n'avaient pas forcément été pas pris de manière unifiée dans un même ensemble, chapeauté par une même organisation par exemple, et que c'est justement un des gestes qu'on a voulu faire avec ce livre, de montrer que ces expériences, ça va avoir entre elles. Alors par exemple, comment se poser la question de la production alimentaire, se mettre à faire du jardinage alors à différentes échelles. Il y a des gens qui cherchent à faire de l'expérimentation pour se réapproprier des techniques de culture, de permaculture par exemple, et puis d'autres qui cherchent à produire plutôt en quantité justement pour ne pas s'alimenter qu'eux-mêmes, mais nourrir des expériences collectives, etc., et des expériences de lutte, comme ça a pu arriver à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, par exemple. Donc on a des expériences comme ça, on a des expériences plus de gens qui se retrouvent dans des mouvements sociaux, à occuper des lieux, etc. Et puis comment tout ça, mis bout à bout, et surtout entrecroisé, pour nous, ça faisait sens, parce que c'est un peu comme ça que nous, on l'a vécu, et aussi parce qu'il nous semble que ça prend une dimension supplémentaire de venir montrer que tous les pans de la vie, finalement, peuvent être pris sous cet angle de chercher à se réapproprier quelque chose, soit des savoir-faire, soit des territoires, soit une façon de faire la fête, etc.
Je pense que c'est effectivement une des caractéristiques que j'ai trouvées très intéressantes dans tous ces mouvements auxquels vous participez, les uns et les autres, c'est la façon dont ça s'incarne dans la vie, dans le quotidien, dans le fait d'organiser sa propre vie. Et on s'aperçoit, et le livre en témoigne vraiment, et j'aimerais que vous en parliez, que c'est un chantier immense, qui a véritablement énormément de territoires à reconquérir.
Juste pour compléter un peu sur le point d'avant, je pense que par rapport à ce que vous disiez en introduction, je pense que c'est assez juste de dire que ce qu'on a rassemblé de manière un peu artificielle, mais en même temps qui fait sens pour nous dans le livre, c'est effectivement des choses qui sont rassemblées de manière très concrète sur des espaces comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou d'autres ZAD. Et c'est effectivement ça qui est venu matérialiser quelque chose qui existait, qui était latent, et de le rendre concret. Alors c'était déjà le cas quand on a sorti le livre, mais le fait que ça devienne une catégorie, en tout cas que ça devienne perceptible pour le plus grand nombre à travers la médiatisation, que c'est différent. Plans de lutte et d'existence peuvent être pris ensemble dans un même endroit. Je pense que ça vient dire quelque chose de fort, qui est ce qu'on a essayé de dire de manière un peu théorique dans le livre.
Arnaud Feuillet.
Je crois que quelque chose qui nous a passionnés et dont on essaye de rendre compte à travers le bouquin, c'est d'expériences politiques qui permettaient la rencontre, qui étaient un peu hybrides, qui permettaient de décaler. Et ça revient à la question que vous posiez tout à l'heure sur le fait que ce qu'on cherchait à mettre en avant dans nos expériences, c'était non pas tant la pureté d'une vision politique idéologique, mais ce qui permet des décalages. Alors je vais l'exemplifier. Par exemple, ce qui était passionnant, j'évoquais tout à l'heure l'occupation du parc Paul Mistral à Grenoble, c'était comment tout d'un coup une lutte qui avait été menée par une association assez légaliste, lobbyiste, qui disait on veut pas que notre parc à Grenoble disparaisse. Elle trouve ses limites et puis elle se voit tout d'un coup décuplée, renforcée. Elle a un tournant parce que des jeunes écolos du coin vont faire des cabanes dans les arbres à côté de la mairie. Et puis que là, il y a une rencontre qui se trouve avec des squatteurs anarchistes qui sont très en mouvement dans la ville depuis des années. Et puis des gens qui étaient dans cette association qui ne s'étaient jamais retrouvés confrontés avec la police, avec des petites mamies retraitées qui vont chaque jour empêcher le chantier et puis apporter des soupes aux gens qui sont dans les arbres comme ça. Ou le fait, par exemple, que quand on a commencé à occuper le quartier et les friches maraîchères autour de chez nous, on sortait tout d'un coup de notre squat assez punk, comme je le disais, et puis qu'on se mettait à rencontrer des gens du quartier autour d'un savoir-faire commun, partager, faire du jardin, que ça permettait des fêtes, des repas, et puis de discuter politique, quoi, discuter de comment on veut que la ville soit. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que souvent, ces possibilités de rencontre, d'hybridation, pour qu'elles prennent consistance, il fallait qu'elle s'ancre quelque part, qu'elle soit localisée. Et ça, c'est effectivement un rapport au territoire qui se joue là, qu'on retrouve très fortement à la ZAD. Si la ZAD a pris cette puissance-là, en tout cas à Notre-Dame-des-Landes, c'est effectivement parce qu'il y a eu la rencontre entre des jeunes qui avaient cette espèce de possibilité existentielle, cette ouverture au fait tout d'un coup de faire rupture avec leur vie de charpentier, de croupier de casino, je pourrais en citer un certain nombre de gens comme ça qui ont fait rupture avec leur vie d'avant, et puis des paysans qui étaient ancrés dans la région depuis un moment, des gens qui se battent depuis 40 ans contre cet aéroport, et toute cette confrontation-là, elle est super difficile parce que c'est des gens qui viennent de pratiques politiques, de manières de se parler, de s'organiser, qui peuvent être très différentes, mais le fait qu'il y ait un endroit où cette rencontre-là elle soit possible, où elle se constitue pendant des années, et pas seulement autour des moments de lutte qui sont magiques, le moment où ces gens se retrouvent ensemble derrière des barricades, où des paysans et des gens qui ont débarqué de la ville depuis quelques mois se retrouvent ensemble à faire la fête, à se lever tous les matins à 4h du matin pour tenir des barricades, et qui arrivent à résister face à la police, à dire non de manière comme ça un peu forte, c'est extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ces gens continuent à se retrouver dans les mois qui suivent, autour de chantiers communs, de fêtes d'ébattage, d'un ensemble de choses qui sont à même de constituer un mouvement et un ancrage dans un endroit donné.
Alors justement, parce que là, de nouveau, vous êtes en train de décrire, et c'est vrai que c'est assez fascinant, vous êtes en train de décrire tout ce foisonnement de rencontres, toute cette propagation qui se fait, toute cette capacité, en fait, à être dans l'hétérogène en permanence, dans la différence, dans la singularité de chacun et néanmoins ensemble. Mais ensuite, concrètement, et ça, c'est vraiment, ce sont des choses que vous avez vraiment... évoqué et analysé dans le livre Constellation. Ensuite, il y a la réalité de qu'est-ce que ça signifie se mettre à vivre ensemble. Il y a une question que vous posez au tout début du livre qui est d'accord, on se lance, c'est génial, c'est l'aventure, mais ensuite, au bout d'un moment, quoi ? Est-ce qu'il s'agit simplement de poursuivre les débuts ou est-ce qu'il s'agit de passer à autre chose ? Et là, la question que je vous pose, c'est au moment où d'une certaine façon, il s'agit de passer à autre chose. Ce autre chose, c'est apprendre à vivre ensemble. Et là, vous avez découvert toutes sortes de difficultés. Difficultés, ou en tout cas, de questions, parce que ce n'est pas nécessairement des difficultés. La question de l'argent. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Pablo Régin.
Alors oui, donc une des expériences qu'on raconte dans le bouquin, c'est quelque chose qui pourrait sembler tout bête, des gens qui habitent ensemble, ont choisi d'habiter ensemble, et qui, parce qu'ils sont, ça joue un peu dans l'histoire, ils sont pas français, ils sont étrangers, ils n'ont pas droit directement aux aides sociales, aux RSA, etc. Donc se pose la question de l'argent, elle se pose pour tout le monde, là dans le monde dans lequel on vit, mais pour eux, elle se pose de manière encore plus forte. Eux, ils avaient choisi d'habiter ensemble, comme je l'ai dit, et ils se sont dit, plutôt que juste partager une maison, on va essayer de partager tous nos revenus et mettre tout ce qu'on gagne dans une même boîte. Et du coup, penser cette question de rapport à l'argent, pas seulement d'un point de vue individuel, mais collectif. Et ils racontent, donc, ça veut dire aussi penser comment... qu'est-ce qu'on met dans la boîte et comment on la remplit. Donc, ils cherchent des travaux plus ou moins saisonniers à faire collectivement aussi. Et puis, ils racontent en fait comment ça leur a permis, d'une question qui est problématique pour tout le monde, d'en faire quelque chose de vachement plus léger dans leur vie, parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter et que les moments où ils ont besoin de thunes, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont un voyage à faire, parce que pour tout un tas de raisons, ils savent qu'il y a une caisse dans laquelle ils peuvent puiser et que les autres leur font confiance, enfin qu'ils se font mutuellement confiance pour pas faire n'importe quoi avec et qu'ils n'ont pas de compte à rendre à chaque fois qu'ils empruntent des sous pour ceci ou cela. Ils racontent comment ça leur... Alors, ça fait pas que l'argent n'est plus du tout un problème, mais comment ça devient quelque chose de beaucoup moins pesant dans l'existence. Le simple fait de mettre en commun à quelques-uns, une demi-douzaine de personnes. Voilà, ça, c'est un des exemples.
C'est un des exemples, Armel Bizot.
Il y en a un autre qui est assez parallèle à celui-là, qui s'inscrit dans la partie savoir-faire. Et c'est une bande qui raconte comment ils sont mis à faire des travaux ensemble, pour gagner des sous et pas seulement, c'est-à-dire aussi pour apprendre à construire des maisons, se réapproprier des savoir-faire. Et ce qu'ils disent dans le livre, et que j'aime assez bien cette idée-là, c'est que paradoxalement, le fait de gagner des sous ensemble, ça leur permet de se libérer de la question de l'argent dans ce qu'ils vivent entre eux. J'aime beaucoup cette manière de prendre en fait cette question de l'argent, par exemple.
Mais ensuite, il y a un autre volet. Ah, je vous ai frustré là, Arnaud Feuillet, vous vouliez ajouter quelque chose, allez-y.
Non, c'est pour... je voulais revenir à la question de l'argent, où sans vouloir dire que c'est l'unique nerf de la guerre, à la base quand même, quand on est gamin et qu'on se dit, comme on le disait au début, que... la voie du travail salarié, de peut-être se faire un crédit pour 30 ans, de passer sa vie dans des boulots généralement peu tentants, et en gros de perdre sa vie à la gagner, on cherchait autre chose. Il y a une première logique qui est de se libérer du temps, et pour pouvoir se libérer du temps, il faut se libérer par rapport à la contrainte financière. Bon, on peut toujours dire qu'on vit dans un état où il y a encore un certain nombre de protections sociales qui fait qu'on n'est pas complètement à la rue et dans la misère si on se retrouve sans travail salarié, mais on sait tous très bien que même pour des gens qui toucheraient le RSA, se retrouver à vivre avec 400 euros par mois, c'est plus une réalité de misère, de contrôle permanent, de pression au travail. Et qu'à un moment donné, on cherche à faire rupture avec ça. Et la possibilité de faire rupture avec cette pression au travail salarié, dans un premier temps, c'est des trucs de débrouille. C'est on ouvre un squat, tout d'un coup, on n'a plus de loyer à payer. Tout d'un coup, on va se retrouver à partager la machine à laver, l'économie. On va aller faire les poubelles des supermarchés. On va se retrouver à bricoler, à se retrouver amis avec des maraîchers du coin avec qui on va échanger des légumes contre des coups de main. Et puis, tout d'un coup, ça libère du temps et ça permet de penser collectivement ce temps libéré là. Et puis souvent, ce qu'on raconte dans le bouquin aussi, c'est que par rapport à ces premiers moments de débrouille, mais ces moments de débrouille, des fois, c'est génial. C'est des savoir-faire pratiques qui sont assez précieux, mais parce qu'ils viennent de la réalité. Par exemple, que pour défendre son squat et que la police n'entre pas à n'importe quel moment, il faut apprendre à le barricader. Des fois, c'est toute une inventivité assez géniale autour du barricadage. On pense barricadage statique, dynamique, des matelas, des ressorts, des étais, comment on va pouvoir agencer tout ça, c'est quoi les meilleurs moyens pour pirater l'électricité. Et puis des fois, on a envie d'aller plus loin. Et aller plus loin, c'est se dire, bon, si on prend un peu à bras-le-corps la question d'une production qui serait un peu libérée justement du rapport classique à l'argent, c'est peut-être de manière un peu consistante apprendre à produire des légumes, apprendre à construire des maisons. Et dans le bouquin, on raconte des gens qui se sont passionnés pour la construction de maisons, qui venaient aussi de ce côté où on a tous grandi dans des espèces d'appartes en préfabriqué où on tape du poing sur les murs, ça se décompose à moitié, c'est moche, c'est pas agréable à vivre. Et dans le bouquin, il y a des gens qui se disent, pendant un moment, on occupait des vieilles usines, on les a redécorées, refabriquées. Et puis, qu'est-ce que ça voudrait dire construire des maisons nous-mêmes, penser les matériaux, penser l'agencement, retrouver un rapport créatif super chouette comme ça à l'habitation. Et des fois, on se retrouve du coup à avoir au fil des années, avoir acquis. Des fois, ça va plus vite sur un espace comme Notre-Dame-des-Landes où tout peut s'accélérer. Mais pour certains d'entre nous, ça a pris des années de se construire ces savoir-faire-là. Et ces savoir-faire-là, ils sont précieux et ils pourraient très facilement basculer dans faire de nous des petits entrepreneurs bio, alternatifs, qui tout d'un coup ont ces savoir-faire-là et les redéploient dans une espèce de niche économique nouvelle. Et je pense que l'attention qu'on cherche à mettre en avant dans le bouquin et qu'on essaye de porter dans nos vies, c'est comment à partir de ces savoir-faire-là, on ne recrée pas des rapports économiques, de comptabilité, d'inégalité, de dette et de crédit entre nous, et comment on fait bien attention à ce que ces savoirs, il reste un ensemble de choses partagées, non comptabilisées, échangées d'une manière qui continue à échapper à cette logique-là.
Qui nous rendent du coup plus forts, je voulais juste finir ta phrase.
Et vraiment avec tout le côté que c'est... Enfin, je voudrais insister là-dessus, sur le fait que la réappropriation de ces savoir-faire, c'est pas penser simplement de manière instrumentale, stratégique pour les mettre au service de lutte. C'est vrai que quand on a des savoir-faire charpentiers, pouvoir se dire qu'on va penser une manifestation de réoccupation à Notre-Dame-des-Landes, on va pouvoir reconstruire un village, un ensemble de cabanes en 3 jours, ou penser un chantier collectif, comment il peut s'agencer, c'est génial. Pouvoir penser que si on est des centaines de personnes à aller bloquer un train nucléaire, on va pouvoir amener de quoi nourrir ces centaines de personnes, c'est génial. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est tout simplement le fait que ça procure une vraie joie, une vraie intensité, à un moment où on n'a jamais vécu là-dedans, de mettre les mains dans la terre, de construire, et ça, en soi, sans penser forcément l'utilisation politique dans des luttes de ça, en soi, c'est quelque chose de subversif et de très fort dans le monde où en fait, les objets, on ne sait pas comment ils sont construits, on connaît leur obsolescence programmée, il y a un ensemble de médiations permanentes, de besoins d'experts, de spécialistes, et tout d'un coup, il y a de nouveau des savoirs qui nous appartiennent en propre.
France Culture, terre à terre.
Ruth Stegassi.
En vous écoutant les uns et les autres, on comprend bien pourquoi ce livre s'appelle Constellation, parce qu'il y a vraiment une myriade de points lumineux et puis il y a des liens entre ces points et on peut faire toutes sortes de liens différents. Alors je vais revenir juste très brièvement, c'est promis, à la question de l'argent, justement pour appuyer ce que vous venez de dire, Arnaud Feuillu. Le plaisir des mains dans la terre, le plaisir de réapprendre ou d'apprendre à produire ses propres légumes, son alimentation. Et justement, lorsqu'il vous arrive de les mettre en vente, par exemple, ces légumes, c'est à prix libre.
Oui, bah, je peux revenir sur l'exemple. Il y a deux histoires qu'on raconte dans le bouquin, qui est l'entretien en fait, avec un copain qui est venu ici. Il venait de Dijon, là où j'habite. Et puis, on avait commencé un potager collectif. Le potager collectif, il était content. Lui, il sortait de l'INRA, d'études où c'était très désincarné. En fait, il apprenait la constitution des sols. Et puis, tout d'un coup, il se retrouve à vraiment faire du potager avec des gens. Ça, c'est génial. Et à un moment donné, il y a la rencontre avec la ZAD et aussi avec un réseau de paysans en lutte qui est en train de se constituer.
Quand vous dites la ZAD, c'est Notre-Dame-des-Landes.
La ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et ouais, c'est plus si clair aujourd'hui et c'est très bien. Mais effectivement, c'est la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et à l'époque, il se dit avec un ensemble de potes, ben, il y aurait un sens en France pour les gens qui veulent se poser la question des luttes face à l'agro-industrie, des luttes paysannes, de comment l'accès au foncier, c'est un premier obstacle, comment pourrait se refonder un mouvement d'occupation de terres. Et là, il se trouve que sur Notre-Dame-des-Landes, il y a des terres disponibles et il se pense un projet maraîcher qui se constitue avec une occupation très visible en manif sur la ZAD. Et à partir de ce moment-là, ça permet une rencontre avec les paysans du coin qui étaient assez difficiles jusque-là et tout d'un coup, ça le permet parce qu'il y a des gens qui mettent un peu sérieusement les mains dans la terre. Et effectivement, tout d'un coup, ils se retrouvent à produire pas mal de légumes. La volonté première, c'est de nourrir un peu les autres habitants de la zone, mais aussi que ça permette un lien, une rencontre avec les gens du coin, de faire chaque semaine un marché, boire des coups ensemble. Et à ce moment-là, pour eux, c'est évident qu'ils ne vont pas vendre de manière classique ce qu'ils produisent, quoi, parce qu'ils le pensent plus comme finalement la production des légumes, comme un moyen de se nourrir, un outil de rencontre. Et ce même ami dans le livre raconte qu'il revient à Dijon après cette expérience-là. Et ce qu'ils mettent en place, c'est effectivement un marché de quartier hebdomadaire. Et pour eux, c'est très clair que à la fois, ils ont un peu des frais, qu'à la fois, s'ils donnent simplement, le lien sera peut-être pas si simple, parce que peut-être les gens auraient l'impression que ce serait comme de la mendicité ou qu'il y aurait quelque chose de particulier là-dedans. Et en même temps, ils ne se voient pas donner des prix à ce qu'ils font. Donc pour eux, la question du prix libre, finalement, elle est assez évidente. Et ben, que chacun donne ce qu'il veut, beaucoup ou pas du tout, s'ils n'ont pas envie de donner du tout. Et boum, voilà, c'est un exemple concret de comment à la fois, on est capable de produire des choses de manière assez conséquente et qu'on essaye qu'elles ne soient pas reprises dans ce prisme économique classique.
Mais ce qui est aussi très frappant, c'est à quel point ça déplace la question de l'argent et ça la relègue dans un coin où elle devient tout à fait accessoire. Et en fait, je pense que ce qui est assez caractéristique, là encore, de votre démarche, c'est l'inventivité, c'est la créativité, le fait que y a des choses complètement inattendues qui surgissent, qui se mettent à exister. Alors, ça pose toute la question de l'imaginaire, question que vous posez également dans le livre. Pablo Reja ?
Ouais, donc effectivement, on a trouvé, en réfléchissant un peu aux différentes grandes questions qui se posaient pour comprendre un peu les histoires qu'on voulait raconter, il y en a une, c'est la question de l'imaginaire, donc ça forme une des constellations de notre livre. Et on s'est rendu compte, en fait, on partait un peu du présupposé qu'on manquait d'imaginaire, que justement cette question de l'inventivité, qu'on était un peu dépourvu de ça.
Et puis qu'est-ce qui explique ça ?
Et ben justement, en fait, on s'est plutôt rendu compte en travaillant la partie, aussi en discutant. C'est un peu une partie où on est allé faire des entretiens avec notamment des gens qui travaillent l'imaginaire, donc des écrivains, le collectif Wuming en Italie et puis Alain Damasio en France, que c'est peut-être pas tant qu'on manquait d'imaginaire qu'on était sursaturé des imaginaires pop de la culture dominante, notamment hollywoodienne, etc. Et que si on voulait arriver à inventer d'autres vies, justement, il fallait qu'il y ait aussi un travail sur ce plan-là de l'imaginaire, parce que sinon, on peut bien essayer de se donner des moyens matériels, par exemple, de vivre autrement, si tout ce qu'on a en tête comme exemple de fonctionnement, par exemple, l'échange monétaire, on va avoir du mal. On a beau produire des légumes sains, et nous-mêmes, et collectivement, si derrière, tout ce qu'on sait en faire, c'est aller les revendre, même sur un marché, eh ben, on ne va pas inventer grand-chose. Donc il y a tout ce champ de lutte aussi autour de l'imaginaire qu'on a identifié comme, en tant que tel, quoi, comme un champ de lutte.
Mais c'est quand même très compliqué, parce qu'un imaginaire, ça ne se décrète pas, ça ne se fabrique pas.
Ouais.
Non, oui,
c'est pour ça que en élaborant la partie, il y a aussi un peu des échanges de lettres entre des gens qui ont envie de penser justement comment on peut travailler un imaginaire avec tout ce côté problématique que décréter, l'utilisation, la mise au service d'une cause politique de l'imaginaire, souvent ça donne des choses pas très bonnes, voire franchement abjectes quand c'est des causes politiques qui versent vers le totalitarisme, etc. Mais... et qu'il y a quelque chose d'un peu fuyant dans l'imaginaire qui est aussi intéressant à aborder en tant que tel, quoi. C'est qu'on ne peut pas lui mettre la bride et puis dire bon, voilà, on va. Sinon, ça devient plus des imaginaires, ça devient des idéologies, quoi. Et on parlait du prix tout à l'heure. Il faut effectivement, je pense, le voir comme quelque chose de. Une invention pour essayer de reléguer l'argent pas au centre de nos vies. Il ne faut pas le voir comme un dogme où, dès qu'il y a quelque chose qui ne serait pas à prix libre, eh ben, on serait d'affreux capitalistes, quoi. Et c'est ce jeu entre. Une invention permanente, et puis en étant conscient qu'on ne va pas pouvoir maîtriser les imaginaires qu'on essaie de créer, qui est intéressant particulièrement sur cette notion-là, parce qu'il n'y a rien de plus fuyant qu'un imaginaire.
Arnaud Feuillu.
Ouais, pour revenir sur cette question de l'imaginaire, et par exemple sur le fait d'arriver à s'ancrer dans un territoire en lutte, on parle du Val de Suze et de Notre-Dame-des-Landes, enfin c'est deux, on ne parle pas que de ça dans le bouquin, mais c'est deux luttes qui sont présentes. On se rend compte que c'est forcément aussi donner du corps à ces luttes, leur donner de la densité, un travail sur l'imaginaire de ce territoire. Dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, ça a pu aller rechercher ce qu'avait été l'histoire de la lutte contre Plogoff en Bretagne il y a quelques décennies de ça, et se rendre compte qu'en fait, on vit dans une région qui a cette particularité, qu'encore dans la tête de certains anciens et pas si anciens, c'est rester quelque part dans les mémoires que c'est possible de stopper un projet d'État et d'être assez fort pour ça. Et ça, c'est pas partout. Il y a aussi l'imaginaire dans le coin du fait que c'est pas nous qui avons, les premiers ici, été occupés des terres face aux paysans cumulards qui essayent de tout phagocyter, mais que pendant toutes les années 70, il y a eu le mouvement paysan-travailleur et avec des gens qui, effectivement, d'ores et déjà, allaient occuper des terres, se confrontaient à ça. Et il y a un travail pour donner de la consistance à ce qu'on vit, à montrer comment ça s'inscrit dans une histoire. Ici, aujourd'hui, on pense, je dis ici à Notre-Dame-des-Landes, on pense pas mal l'idée de communaux. L'idée, parce qu'il y a des imaginaires qui peuvent réenfermer un peu la lutte. Par exemple, je pense ici beaucoup comme exemple l'idée de société civile, type ce qui s'est passé au Larzac, qui réinscrirait potentiellement l'avenir de cette zone-là dans un imaginaire juridique un peu circonscrit. Et d'un autre côté, on se dit, il faut qu'on le pousse plus loin. Et ça, quelquefois, ça va aussi aller chercher du côté d'une histoire plus lointaine, du fait que, par exemple, ces landes-là, pendant tout un moment, c'était des terres qui étaient vues comme un peu reléguées, inusitées, mais que ça donnait une certaine liberté à les penser comme communes, communales, avec un rapport à ces terres qui était beaucoup plus partagé et moins privatisé. Du coup, voilà, quelquefois dans les luttes, je pourrais dire de la même manière, dans le Val de Suze, c'est beaucoup passé par aller chercher du côté de l'histoire de la résistance, du côté des gens qui allaient se réfugier dans la vallée, qui étaient un peu les reclus de partout, les sorcières, les mendiants, les vagabonds. Et du coup, voilà, des fois, il y a ce travail de recherche historique là, et à travers ce travail de recherche historique, il y a tout ce travail, qui est un peu aussi le travail du bouquin, de se dire qu'il y a une histoire des vainqueurs, qui est l'histoire qu'on voit partout, à la télé, dans les bouquins d'histoire, et qu'il y a une histoire qui est beaucoup plus sourde, cryptique, qui reste souvent cachée, underground, je dis underground comme un peu parce qu'elle peut passer à travers des fanzines, des disques, des chansons, mais qu'elle est souvent beaucoup moins visible comme ça, qui est un peu l'histoire des gens qui sont rentrés en lutte, qui sont souvent ceux qui sont vaincus dans l'histoire, mais qu'on n'a pas envie qu'ils le demeurent toujours. Et pour nous, le travail du bouquin, c'est précisément un travail sur l'imaginaire, dans le sens où on n'avait pas envie d'attendre que notre histoire soit posthume, soit lointaine pour la faire. On avait envie d'une histoire qui aille immédiatement retravailler les expériences politiques qu'on avait vécues et qui dise ici et maintenant, il y a tout un tas de possibilités de vivre et lutter qui sont présentes et que cette substance-là, elle ne doit pas simplement se raconter à travers des manifestes théoriques, des programmes, des analyses politiques, mais ce qui peut donner envie, ce qui peut exciter là-dedans, c'est aussi le côté sensible, les histoires, l'amour, les liens affectifs, un ensemble de choses qui rendent compte, je parlais de la joie tout à l'heure, de la densité des vécus, et quand on parle d'imaginaire, c'est pas forcément pour le mettre en vis-à-vis antagonique avec le côté plus analyse politique, mais c'est de se dire, si on a envie de donner envie, ce côté sensible-là qui est propre à l'imaginaire, il doit être aussi très présent. Il l'est malheureusement pas toujours dans un ensemble de productions écrites qu'on peut avoir dans nos luttes, qui sont quelquefois très centrées sur des tracts, des comptes rendus, des textes explicatifs, qui ont une espèce de d'objectifs immédiats. Et du coup, on avait envie aussi, à travers la manière dont travaillait la matière du bouquin, de trouver des formes d'écrit de récits qui donnent envie d'une autre manière.
Collectif Mauvaise Troupe, vous avez établi un lien entre imaginaire et histoire. Vous avez établi une absence de lien entre imaginaire et idéologie. Vous n'avez établi aucun lien entre imaginaire et utopie. Pablo Régin.
De fait, on est quand même allé un peu chercher de ce côté-là, un imaginaire un peu de l'après, quoi, de la suite, de vers quoi on aurait envie de tendre. C'est un peu aussi là-dessus que travaille Alain Damasio dans ses romans d'anticipation. On est un peu prudent sur ce volet-là parce que on a trop vu dans l'histoire comment trop baliser ce que pourraient être les lendemains qui chantent, ça risque à la fois de décevoir et puis à la fois de fermer des possibles. Et que si on pense que la révolution, ça va être comme ça et comme ça et comme ça et pas autrement, eh ben, on risque fort de se planter a priori, quoi. Parce qu'il faut, laisser cette possibilité de toujours mettre en question et de toujours être bouleversé par les événements. Pour autant, il nous a semblé quand même qu'arriver à avoir au moins quelques repères, quelques balises, quoi, sur ce qu'on a envie de vivre, vers quoi on voudrait tendre, c'est quand même quelque chose dont on a besoin. Et bon, le constat qu'on a fait en travaillant là-dessus dans le livre sur les 10 dernières années, c'est que c'est pas un champ qui est particulièrement très investi à l'heure actuelle, quoi. Je pense qu'on manque encore de récits, je pense pour toutes les raisons que je viens de dire, du fait que c'est difficile à manier. Mais il faudrait que...
Des récits, ça reste important.
Ben, des récits de l'après, quoi, je disais. Mais c'est vrai que les récits de ce qu'on a vécu, c'est sûr que c'est très important pour nous, parce que c'est vraiment de ça qu'on est parti pour faire ce livre, quoi.
Il me semble qu'il y a aussi une question d'horizon de temps. Quand j'ai parlé d'utopie, on a l'impression que c'est dans un futur assez indéterminé. Et tout ce que vous décrivez, c'est du ici et maintenant. Et c'est une façon d'occuper les brèches, c'est une façon de vous glisser dans tous les interstices, quels qu'ils soient, et de les occuper pleinement, avec justement cette question du temps que vous vivez différemment aussi, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'acceptation de ce qui est ponctuel. Vous n'arrivez pas sur une ZAD en vous disant « je viens ici pour vivre 30 ans, je vais payer mon crédit et au bout j'aurai ma villa, ça me suffit ». Donc vous pouvez venir pour peu de temps, mais vous pouvez aussi décider de rester. Et ça donne une certaine coloration à la façon de vivre et de lutter. Pablo Régin ?
Ouais, je pense que cette question-là de la temporalité, c'est vraiment effectivement quelque chose de très important pour nous. On nous a posé la question dans une présentation du livre, enfin une discussion à partir du livre dans une librairie. Quelqu'un qui nous a demandé en gros si on y croyait vraiment, quoi, à ce qu'on racontait, et si on n'avait pas peur de déchanter assez vite. Et
La preuve, ça serait le temps, c'est ça ? Il y aurait une estampille à tenue 10 ans, donc c'est
et bon.
Quand
même, je pense que c'est pas rien. Ça fait pas toute notre vie, on espère bien vivre encore beaucoup de choses, mais le fait de faire ce travail, de regarder un peu en arrière et de se dire, voilà, qu'est-ce que je pensais il y a 10 ans, en 2004, quand j'étais étudiant, et qu'est-ce que je fais, je pense maintenant, et ben, quand même, ça rassure sur le fait que, oui, c'est des choses dans lesquelles on se sent pris de manière assez certaine, et qu'on sait que ça va durer, on a envie que ça dure, et on se projette là-dedans. On peut avoir des enfants et continuer à vivre ces histoires-là. On peut avoir eu des emmerdes avec les services sociaux et ne plus toucher le RSA et quand même, malgré tout, pas avoir besoin d'aller retrouver un travail et de galérer pour retrouver un travail.
On peut se lancer dans des études de médecine qui vont durer 7 ans parce que ça fait sens auprès des collectifs auxquels on vit et qu'on sait qu'on va avoir les copains derrière qui vont suivre et qu'on va pouvoir continuer à être lié politiquement à ce qu'ils font et du coup se lancer sur des espèces de projets comme ça assez fous mais qui prennent sens.
C'est pas juste une question de folle jeunesse.
Ben, en tout cas, c'est sûr que quand on sait, on voit aussi qu'on peut prendre soin de copains qui tombent gravement malades. Enfin, voilà, toute cette dimension-là, qu'on a l'impression d'avoir les épaules suffisamment solides et qu'on a des projets qui s'inscrivent, qu'on plante des arbres aussi dans le temps, c'est sûr que là-dedans, il y a quelque chose qui est essentiel, en fait, qui nous fait étonner et nous dire que c'est pas juste un feu de paille, quoi, ce qu'on tente là.
Arnaud Feuillu.
Je pense dans la question du temps, il y a aussi la question du rapport à la victoire, à la possibilité, en fait, à des moments dans nos luttes, de gagner des espaces, de gagner des outils et de les garder. Et je pense que pour nous, par exemple, ça n'a pas été rien, il y a 17 ans, d'ouvrir un squat et au lieu de se faire expulser un an après, de se donner les moyens par toutes les formes imaginables, des pétitions, des occupations, des manifs, de mettre notre vie là-dedans pendant un an et demi sans discontinuer, et de faire des compromis là-dedans aussi, d'accepter que peut-être à un moment on allait négocier des choses avec la mairie, peut-être mettre une partie du lieu aux normes, mais que ce qui valait le coup là-dedans, malgré les compromis, c'est que d'une part on allait s'arranger pour que ce lieu il soit pas tout d'un coup aseptisé, enfin que la victoire signifie pas le réencadrement de ce lieu-là, mais de se donner les moyens de le garder. Et je pourrais dire 15 ans plus tard, dans la trajectoire temporelle, ce qui s'est joué ici à Notre-Dame-de-Landes et ce qui, j'espère, va se jouer ailleurs, c'est de réouvrir la possibilité de victoire. Je dis victoire au sens où quand 2000 policiers débarquent quelque part, ça s'était pas vu depuis un moment qu'ils ne gagnent pas et que des gens relèvent la tête, disent non et soient assez soutenus, qu'il y ait un mouvement assez intense et fort pour que les policiers repartent et que cette zone vive sans police pendant les 2 années qu'on suivit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais que ce qui se joue ici, c'est comment on va garder cette zone-là, comment on va la garder libre, en dehors de l'emprise classique du pouvoir, avec peut-être encore une fois un certain nombre de compromis qui vont se jouer et se faire, mais comment on va faire en sorte en tout cas que cette zone elle reste en lutte et que nos vies s'y inscrivent pour
et
la suite.
Entre la durée et les compromis, comment faire pour que vos vies ne se normalisent pas, ne s'organisent pas au-delà de ce que vous pourriez souhaiter, Armel Bizot?
Oui, parce que pour moi, le problème, ce n'est pas tant la normalité que...
Normalisation, ce n'est pas normalité.
Oui, c'est vrai. Enfin, on peut poser ce problème-là dans le temps. Moi, je pense qu'il se pose au jour d'aujourd'hui, en fait. Comment on est toujours en équilibre avec tout un tas de compromis. C'est des questions qui se posent... tout le temps, à chaque chose qu'on entreprend de faire. Utiliser l'essence, l'électricité des centrales nucléaires, de l'argent de l'État, c'est toujours une question qui est en tension. Et la question, c'est plutôt... elle vient toujours être posée en fonction aussi de qu'est-ce qui, collectivement... va être peut-être le plus important. Quel outil va pouvoir nous aider le plus pour avoir un peu plus de poids politiquement?
Pablo Régin.
Comment ça nous rend plus autonomes, quoi? C'est cette question de l'autonomie, nous, du coup, par rapport à la normalisation, la norme. L'autonomie, c'est définir nos propres normes, mais au sens où c'est pas, on ne prétend pas être complètement... en dehors de cette société, ni même en dehors de toute société, c'est l'autonomie pour nous, c'est une démarche d'autonomisation, quoi. Donc, on se rend compte que, on est toujours possiblement rattrapé par une certaine forme de normalisation. On n'est jamais complètement sorti de ce monde-là. Par contre, on arrive assez bien, je pense, à jauger si le mouvement dans lequel on est pris, ça nous fait plutôt en sortir que plutôt y retourner, quoi. Et si on y arrive assez bien, c'est parce qu'on est confronté à... On n'est pas tout seul à le penser, quoi. C'est se confronter à, par exemple, des gens qui vont avoir un regard plus critique sur, tout un tas de choses, sur la façon dont on relationne les rapports entre les gens, comment il n'y a pas des rapports de pouvoir qui viennent s'installer là-dedans, sur le rapport à la technologie, comment on n'est pas en train de se rendre dépendant de nouvelles formes. Il y a cet aspect-là d'attention à... tous les espaces où peuvent réémerger des façons de se faire recapturer par une certaine normalité, en tout cas une certaine forme de rapport de pouvoir ou de soumission qui est assez présente, et en même temps Et ben, il y a aussi des rencontres avec des gens qui, je ne sais pas, on citait tout à l'heure le copain qui bossait à l'INRA, donc qui était pleinement dans des réflexions scientifiques autour du rapport à la culture, etc. Et puis, il peut lui-même venir apporter des choses qui vont aussi faire un peu bouger ces grilles de lecture qui, des fois, peuvent être un peu fermes et bornées, de dire « Ah non, moi, la technologie, j'y toucherai jamais. » Puis, en fait, ou le rapport scientifique à la nature, c'est vraiment trop dégueulasse. Puis, en fait, on se rend compte qu'il y a peut-être quelques savoirs qui peuvent être réutilisés là-dedans et qu'on n'est pas en train de vendre son âme au diable quand on introduit ces techniques-là. Enfin, ça dépend quelle technique, évidemment. Et donc, voilà, il y a un peu ce jeu de... Tant que ça reste en mouvement, quoi, tant qu'on ne se fiche pas dans quelque chose, que ce soit sur des principes trop bornés ou que ce soit de se laisser recapturer par la marche normale du monde, il nous semble qu'il y a de l'espoir, quoi, il y a des possibles qui restent ouverts.
Arnaud Feuillu ?
Pour moi, un sacré rempart face à la normalisation, il se tient dans comment on garde aussi un rapport ludique et insolent au monde, en fait. Et je crois que ce qu'on essaye de raconter dans le livre, c'est aussi l'excitation qu'il y a à se mettre en danger collectivement, à débarquer à 5h du matin sur un chantier, monter au-dessus d'une grue, à tout d'un coup faire irruption avec une fête de rue qui va bloquer la ville pendant une nuit entière, à faire un ensemble de choses un peu folles, à sortir la nuit ensemble et puis peut-être à aller mettre un peu de sable à l'intérieur de machines pour plus qu'elles fonctionnent le lendemain. Et il y a une idée qu'il faut garder ce rapport précieux au monde qui est le fait de ne pas être sage, de demander plus qu'on a déjà, d'être insolent. Et je pense que tant qu'on arrive à garder cette énergie-là et que le but, c'est pas simplement de s'installer avec ce qu'on a, mais toujours de chercher ce qui fait rupture, ce qui est à la frontière, eh ben, je crois qu'on tient quelque chose qui permet de, effectivement, pas de se normaliser et de rester en lutte.
Cette émission est maintenant terminée. Vous retrouverez toutes les informations sur le livre Constellation, paru aux éditions de L'Éclat, sur notre site franceculture.fr. Vous retrouverez également notre revue de web hebdomadaire. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Chenepin, Anne Gouzon, mixage, Cédric Châtelu, réalisation, Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.